Qu'est-ce que le protestantisme ? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que le protestantisme en lui-même est très divers. Et donc tout ce que je peux vous dire, c'est comment nous concevons notre propre protestantisme. Je pourrais dire que d'une façon générale, le protestantisme se définit comme un christianisme particulièrement centré sur la Bible. Alors pour moi, je dirais que le protestantisme, je le définirais de la façon suivante, en disant que c'est une façon d'être chrétien et que j'admets que ce n'est pas la seule. En disant cela, je dis déjà beaucoup de choses. D'abord que le protestantisme en soi n'est pas une religion. Ma religion à moi, protestant, c'est chrétien. Et il se trouve que ma manière d'être chrétien, aujourd'hui, c'est dans le protestantisme. Mais je n'ai pas du tout la prétention à penser que, forcément, le christianisme ne doit être que le protestantisme, ni même de penser que c'est forcément la meilleure pour tout le monde. Disons que pour moi, je suis avant tout chrétien, avant d'être protestant, et il se trouve que je suis heureux de pouvoir partager, vivre, et de pouvoir vivre cette foi au quotidien, je dirais, dans le milieu du protestantisme. Le protestantisme en France, ça n'est pas grand-chose, puisque ça représente, je dirais, à peu près 2 ou 3% des Français, 1% de protestants très pratiquants en France, et si on prend plus large, de gens qui se considèrent comme rattachés au protestantisme, on arrive autour de 5%. Mais ce petit nombre ne doit pas faire se mépriser le protestantisme, d'abord parce que le protestantisme réformé, qui est celui auquel nous appartenons ici, est quand même un protestantisme qui a près de 500 ans d'histoire en France. Il est issu de ce grand mouvement de la réforme qui a eu lieu au XVIe siècle. Et puis par ailleurs, s'il y a peu de protestants en France, c'est dû à l'histoire même de la France, qui a, comme vous le savez, interdit le protestantisme pendant longtemps. Mais le protestantisme représente 40% du christianisme en Europe, à peu près. Alors comment définir plus précisément ce que c'est que ce protestantisme ? Je dirais que c'est donc un christianisme que je voudrais définir comme évangélique. Ce terme d'évangélique est aujourd'hui très dangereux parce qu'il désigne, vous savez, ces mouvements souvent issus du protestantisme qui ont une certaine tendance au fondamentalisme. Mais pourtant, si on veut reprendre le sens propre de ce mot, oui, je veux dire que le protestantisme est un christianisme évangélique, c'est-à-dire c'est un christianisme qui veut se fonder plus particulièrement sur l'Évangile. Alors c'est bien cela, ce dont il est question. C'est un christianisme qui veut finalement revenir à la source même qui est la Bible et qui est l'Évangile. Ce n'est pas pour rien, je crois, que le protestantisme est né au moment de la Renaissance, où il y a eu un grand mouvement de retour aux sources. Et à ce moment-là, effectivement, certains chrétiens ont voulu essayer de retrouver la source même, de revenir aux textes anciens, qui n'étaient alors plus tellement lus, en tout cas dans le peuple. Et en redécouvrant les textes anciens, les réformateurs, ont voulu dire qu'il était dommage que le christianisme s'était parfois, je dirais, un peu trop enrichi et on y avait annexé pas mal de croyances ou pas mal de choses qui finalement n'étaient pas essentielles. Et donc ils ont voulu revenir d'une certaine façon à l'origine, de revenir à la pureté de la source et de revenir à la Bible elle-même. Et non seulement d'un point de vue intellectuel pour les théologiens, mais aussi de donner la Bible aux fidèles pour qu'ils puissent eux-mêmes fonder leur foi sur l'Écriture. Donc oui, certainement, le protestantisme, c'est vraiment ça qui le définit d'ailleurs dans toutes ses branches, c'est un christianisme qui admet comme seule source fondamentale de sa foi le texte. Après, quand j'ai dit que le protestantisme était un christianisme, eh bien, il faudrait définir ce que c'est que le christianisme, mais vous en avez tous un peu une petite idée. Et par le fait que le protestantisme est une forme de christianisme, je dirais qu'il n'est pas très différent des autres formes de christianisme que nous connaissons dans nos pays. Et d'une certaine manière, je dirais qu'un protestant en France ne pense pas très différemment d'un catholique ou d'un orthodoxe, parce que nous avons le même fondement. Et donc je crois que les valeurs qu'il y a dans le protestantisme sont en fait les valeurs chrétiennes qu'il y a dans tous les mouvements chrétiens. Mais je crois que la particularité du protestantisme, c'est plutôt d'insister plus particulièrement sur certaines valeurs. Autrement dit, peut-être que ce qui distingue les différentes formes de christianisme, ce ne sont pas tellement les valeurs dans lesquelles ils croient, qui sont forcément toujours un peu les mêmes, c'est plutôt la hiérarchie dans laquelle ils mettent ces valeurs. Et donc je dirais que le protestantisme est un christianisme qui insiste plus particulièrement sur certaines choses. La première chose à laquelle on pense, bien sûr, en parlant du protestantisme, c'est la liberté et la responsabilité. Alors bien sûr, il y a de la liberté et de la responsabilité dans tous les mouvements chrétiens, mais chez les protestants, c'est presque obsessionnel, je dirais. C'est vraiment la chose première, c'est la liberté et la responsabilité du croyant. Alors cette liberté, elle est vraie à tout point de vue, puisque il n'y a pas dans le protestantisme de dogme, il n'y a pas d'autorité doctrinale, il n'y a pas de règles de morale, il n'y a pas d'obligation religieuse, il n'y a finalement aucune obligation et aucune contrainte, c'est-à-dire qu'effectivement le protestant est un chrétien libre, et libre dans tous les domaines, c'est-à-dire que c'est à lui de se faire, je dirais, sa propre religion. Mais cette liberté, elle va évidemment de pair avec l'autre aspect de la question, qui est la responsabilité. Et là aussi, le protestantisme a toujours voulu insister particulièrement sur la responsabilité. En effet, cette liberté n'est pas une liberté de faire n'importe quoi, mais plutôt de dire, puisque vous êtes libre, eh bien vous êtes du coup responsable. C'est-à-dire que chaque chrétien, chaque protestant, doit se sentir responsable et justement investi peut-être d'un devoir encore plus grand, par le fait qu'il est libre, de ne pas faire mauvais usage de cette liberté, et du coup de se sentir responsable de sa vie spirituelle, responsable de sa vie à lui, et le protestant est effectivement seul responsable de sa vie et de sa foi devant Dieu. C'est quelque chose qui est donc à la fois beau et grand, et en même temps peut-être pesant, je dirais, pour certains. Et cela va de pair avec un deuxième aspect, je dirais, du protestantisme, qui est, je crois, un optimisme fondamental concernant l'homme en général et concernant le fidèle. En effet, cette liberté laissée au fidèle suppose, d'une certaine manière, qu'on lui fasse confiance. Et on se dit, bon ben après tout, je crois que chaque fidèle est capable par lui-même de trouver ce qu'il sera le mieux et ce qu'il devra faire ou ce qu'il devra croire. C'est peut-être sur ce point que le protestantisme est le plus critiquable. Parce qu'en effet, est-ce que vraiment il a raison de faire confiance aux fidèles ? Est-ce qu'il a raison de croire que l'homme sera capable de faire bon usage de cette liberté ? Est-ce qu'il se sentira effectivement responsable ? Eh bien, ça n'est pas évident. Et en effet, nous avons bien des exemples, même dans notre vie civile, qui prouvent que, par exemple, pour la sécurité routière, que la responsabilisation fonctionne, mais que la peine et la punition fonctionnent beaucoup mieux et est plus efficace. Et donc, en fait, par principe, le protestantisme veut faire confiance aux fidèles. Et donc, je dirais que le protestantisme veut considérer chacun de ses fidèles comme un adulte libre et responsable. Par conséquent, nos paroissiens sont adultes, donc c'est à eux de savoir s'ils ont envie de venir ou non au culte le dimanche. C'est leur problème. Ce n'est pas à moi de leur dire « vous devrez faire ceci ou faire cela, manger ceci tel jour et pas tel autre, vivre votre vie religieuse de telle manière ». Je crois qu'ils sont grands, et ils sont bien assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire, et bien assez grands pour se donner à eux-mêmes leurs propres contraintes, pour se donner à eux-mêmes leurs propres disciplines religieuses. Et ils sont aussi bien assez grands, quand ils viennent au culte, pour faire le tri dans ce qu'ils entendront de la bouche de leur pasteur, qui n'est donc pas quelqu'un qui va parler de la part de Dieu pour leur dire une vérité ou pour leur dire quelque chose auquel il faudrait croire, mais quelqu'un qui vient plutôt proposer une certaine lecture à partir de laquelle ils pourront se faire leur propre opinion. Donc oui, vous voyez, il y a une sorte d'optimisme fondamental qui consiste à croire que finalement, il n'est pas utile de donner trop d'aide aux fidèles. Et ça entraîne dans le protestantisme un autre aspect qui lui est, je crois, l'une de ses particularités, qui est son dépouillement. Oui, le protestantisme est un christianisme très dépouillé. J'ai dit tout à l'heure qu'il souhaitait revenir aux sources, il souhaitait libérer, je dirais, le christianisme de tout ce que les siècles avaient pu accumuler autour de la foi simple en l'Évangile. Et aujourd'hui, et c'est surtout vrai dans la branche que nous représentons, qui est l'Église réformée, il y a un dépouillement. On essaye d'éviter tous les signes, tous les ajouts, tous les gestes, tout ce qui pourrait, entre guillemets, aider le fidèle à progresser dans sa foi. On ne garde que le minimum. Voilà. Et les aides, eh bien, débrouillez-vous. Là encore, on a pu dire que le protestantisme était un peu idéaliste et que, en fait, nous sommes incarnés, donc nous avons besoin de signes, nous avons besoin de musique, nous avons besoin de beauté, nous avons besoin d'œuvres d'art pour nous aider à croire. Mais le protestantisme a fait le choix, je dirais, du dépouillement et du minimalisme dans ce domaine, en disant l'essentiel, il est dans le texte, l'essentiel, il est dans le contenu, l'essentiel, il est dans le message. Et c'est à partir de là que nous allons travailler. Et pour ce qui est du reste, eh bien, c'est à chacun de se débrouiller, en quelque sorte. Autre point, mais qui est aussi, je dirais, une conséquence toujours de cet a priori fondamental de la liberté et de la responsabilité, c'est que le christianisme insiste plus particulièrement sur l'individu. C'est-à-dire que c'est une religion plus de la personne que du groupe. Voilà. Et l'essentiel dans le protestantisme, ce n'est pas l'Église, c'est le fidèle. Et ainsi, l'Église n'est pas ce qui précède, comme si le fidèle devait entrer dans une Église, mais ce sont les fidèles qui constituent le protestantisme, et le protestantisme n'est qu'un ensemble de fidèles qui se réunissent ensemble pour former une Église. Et donc, voyez-vous, dans le protestantisme, l'Église, je dirais, est secondaire par rapport aux croyants, la chose la plus importante étant le croyant lui-même. Et alors, ça entraîne, encore une fois, pas mal de corollaires. D'abord que le protestantisme considère que le lieu fondamental où se joue la religion, ce n'est pas à l'Église, c'est dans le cœur du fidèle. Et autrement dit, l'essentiel, ce ne sont pas les actes religieux, ce ne sont même pas le fait d'être ou non pratiquant, mais c'est la foi individuelle et personnelle du fidèle. L'important, c'est ce que l'on croit dans son cœur. L'important, c'est sa propre conviction, c'est sa façon de vivre. L'important, c'est sa propre recherche, sa propre démarche. Et c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui est à la base de tout. Donc, c'est une religion du cœur, c'est une religion de l'intérieur, qui considère que toutes les formes sont finalement secondaires, non pas qu'elles ne comptent pas, mais elles sont secondaires par rapport à la sincérité du cœur et par rapport au mouvement personnel du croyant qui fait sa propre recherche. Cela entraîne encore une fois plusieurs choses. D'abord, l'idée que l'important, c'est effectivement ce qu'il y a dans le fond du fidèle, et qu'ensuite les formes et les œuvres suivent. Les formes liturgiques, même les sacrements, ont peut-être moins d'importance chez nous parce que ce n'est qu'une façon d'exprimer quelque chose que chacun a dans le cœur, mais ce ne sont que des conséquences, je dirais, de la foi du fidèle. Et de même, les œuvres, ou les bonnes œuvres, la façon de s'engager dans le monde, est plutôt vue comme une conséquence de sa propre foi et non pas comme ce qui est constitutif même de l'être. Et puis une autre conséquence de cette insistance sur l'individu, c'est que on admet assez bien que finalement la forme elle-même est quelque chose d'un peu secondaire, et ça entraîne dans le protestantisme une attitude un peu, je dirais, non formaliste, c'est-à-dire que puisque la forme est secondaire, eh bien d'une certaine façon on peut s'en passer. Par conséquent, pour prendre un exemple, certaines familles protestantes considèrent que il n'est pas de nécessité de baptiser un enfant à sa naissance et qu'on peut très bien attendre qu'il ait 15 ou 16 ans, que ce soit lui qui le réclame. Eh bien, ça ne pose aucun problème. Les protestants pensent que le baptême est un signe de l'amour de Dieu, mais que ce n'est pas parce qu'on enlève le baptême qu'on enlève l'amour de Dieu. Ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu, et le signe, eh bien, finalement, il est moins important que la réalité à laquelle il renvoie. De même, quand des gens me demandent de célébrer une cérémonie de mariage, je ne leur demande pas s'ils sont baptisés. Ou si quelqu'un veut faire partie de l'Église protestante, on ne lui demande pas de se convertir, entre guillemets, comme s'il fallait qu'il y ait une forme à un moment donné, un rite qui formalise le fait d'appartenir à telle ou à telle communauté. Non, la forme n'est pas très importante, nous ne sommes pas formalistes, et après tout, il y a une... je dirais, une approche assez simple et assez directe des réalités qui essaye de ne pas attribuer trop d'importance à ce que l'on peut considérer comme secondaire. Et puis enfin, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais il y a un autre point qui est très important et qui est le premier en général, qui est explicité dans les petits ouvrages que l'on peut lire sur le protestantisme, c'est l'importance de la grâce. Alors je n'ai pas commencé par là parce que je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit effectivement le plus important aujourd'hui dans ce que l'on voit du protestantisme. Mais néanmoins, cette insistance sur la grâce est quelque chose qui a été fondamental dans les débuts du christianisme, du protestantisme au moment de la Réforme. Et je crois que ça a néanmoins encore une importance aujourd'hui, et tout à l'heure mon collègue le pasteur Ruzio va vous expliciter ça un petit peu plus en détail, mais je vais essayer de vous en dire au moins juste quelques mots pour vous expliquer l'enjeu de l'affaire. Vous savez que le protestantisme est né au XVIe siècle, en partie à cause des abus de certains prédicateurs qui essayaient de terroriser les gens sur leur propre avenir, en prêchant les indulgences et en disant « Repentez-vous parce que faites des bonnes œuvres pour être sauvés et si vous n'en avez pas fait assez, vous pouvez même payer pour racheter des années de purgatoire. » Tout le monde aujourd'hui, de toutes les confessions, sont d'accord pour dire que c'était une abomination. Mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait dans la prédication populaire de la fin du Moyen-Âge une insistance sur les œuvres. Et donc, on prêchait en disant « Faites des bonnes œuvres pour être sauvés ». Il y avait donc un enjeu, si vous voulez, l'idée d'un jugement. Alors que les réformés ont découvert, en relisant la Bible, que, en fait, cette prédication était dommageable parce qu'elle chantait la question de l'amour et de la gratuité, justement. Et que, par conséquent, il valait mieux prêcher autrement l'Évangile et de dire plutôt « Vous êtes sauvés par grâce, ça vous est offert, et maintenant, faites des bonnes œuvres en reconnaissance pour ce salut qui vous est offert. » Alors je crois que ça a donné quelque chose au protestantisme qui est justement ce sentiment de liberté. Oui, nous sommes sauvés. C'est un préalable. Nous sommes sauvés et aimés. Nous n'avons pas à mériter notre vie. Nous n'avons pas à essayer de nous sauver par une sorte de purification progressive en étant meilleur, en étant plus pratiquant, en étant plus croyant, en priant plus. Nous sommes sauvés. Et donc, libres et joyeux, nous pouvons agir et faire le bien gratuitement, par reconnaissance. Et c'est ça l'amour. Si on fait du bien pour être sauvé, ce n'est plus de l'amour, c'est du calcul. Et donc ce principe de la grâce a été en fait de réinsuffler dans la religion cette dimension de la gratuité et de l'amour. Alors vous me direz, bon ben oui, mais c'est un peu facile. Si on dit aux gens qu'ils sont sauvés, ils vont en profiter pour faire n'importe quoi. Eh bien, reportez-vous à l'un de mes corollaires de tout à l'heure. Voilà. Principe de base, nous faisons confiance aux gens. Et peut-être que certains feront mauvais usage de cette liberté, mais je peux croire qu'on ne peut pas construire une vie sur la crainte, sur la terreur, sur l'obligation, sur la soumission et l'abandon de soi-même, mais qu'au contraire, ce qui fait grandir l'humanité, c'est de se savoir aimer et de se savoir libérer. Donc certainement, il y a là, je crois, quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui dans le protestantisme, cette importance de la gratuité, qui est de pair et qui est finalement la cause même de tous ces petits principes que je vous ai donnés tout à l'heure de liberté, de responsabilité, d'individualité et d'intériorité. Je crois que cela vient effectivement de là. Alors ce principe de la grâce, eh bien, je vais laisser la parole à mon collègue le pasteur Ruzio qui va vous montrer un petit peu comment on peut le réinterpréter aujourd'hui. Parce qu'en effet, les questions qui ont présidé à la création de la réforme il y a 500 ans, « Serais-je sauvé ?» et « Qu'est-ce qui me sauve ?» ne sont pas absolument les questions que nous nous posons aujourd'hui, ni que se posent les jeunes d'aujourd'hui. Or, il y a un autre principe fondamental dans le protestantisme, c'est la volonté de s'adapter au monde contemporain, d'accepter la culture dans laquelle il existe, et d'être, je dirais, un christianisme finalement inculturé là où il est. Alors c'est pourquoi, par exemple, eh bien, les pasteurs que nous sommes, ben, nous vivons comme tout le monde et nous avons des enfants, nous sommes mariés. Notre seule activité professionnelle est d'être pasteur en général, mais néanmoins, il y a effectivement la volonté d'être intégré dans la vie et de considérer qu'après tout, La religion, ce n'est pas quelque chose qui nous fait sortir du monde, mais c'est plutôt une certaine manière de vivre dans le monde. Voilà. Et du coup, il y a cette volonté d'adaptation, de remise en cause perpétuelle, de formes donc extérieures de la religion qui du coup peuvent s'adapter, n'est-ce pas ? Bien sûr, puisque les formes sont secondaires, eh bien les formes doivent s'adapter au monde. Et puis aussi une adaptation et une réinterprétation possible du message. Par conséquent, ce n'est pas parce que Calvin, par exemple, a prêché la prédestination que 500 ans après, nous nous croyons obligés de croire ce que Calvin a dit. Au contraire, il y a cette idée fondamentale dans la Réforme que chacun étant libre et responsable, eh bien Calvin, il disait ce qu'il voulait, et moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, eh bien je ne crois pas à la prédestination calvinienne. Et d'ailleurs, il m'appartient à moi, aujourd'hui, de trouver ma propre foi protestante, je dirais, et chrétienne. Et donc, il y a une volonté d'adaptation du message et aussi de réinterprétation du message. Les choses ne sont jamais dites une fois pour toutes, mais si elles ont été dites, peut-être y a-t-il moyen de se les réapproprier d'une certaine manière. Et il y a donc toujours ce travail à faire, je dirais, pour réinterpréter, réadapter des pensées qui datent d'il y a 2000 ans pour la Bible et de 500 pour la Réforme. Donc voilà comment, par exemple, on peut essayer de remettre pour un homme du XXIe siècle cette question de la grâce, qui était une question très technique il y a 500 ans et qui aujourd'hui, néanmoins, je crois, a gardé une véritable pertinence.